Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Depuis 10 ans, le nombre d'armes nucléaires dans le monde est en augmentation. Selon le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, on recense plus de 12 000 têtes dans les arsenaux des 9 États possédant des armes nucléaires, dont près de 4 000 déployées et 2 100 en alerte, c'est-à-dire prêtes à l'emploi. Si 85% de ces ogives sont américaines ou russes, Pékin se distingue par un fort dynamisme et une trajectoire ascendante, faisant de la Chine le 3e état nucléaire sur le plan numérique. Après la fin de la guerre froide, le facteur nucléaire semblait avoir perdu de son acuité, mais depuis 10 ans, avec l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, l'environnement stratégique mondial s'est dégradé en même temps que s'est exacerbée la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine et dégradé la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Ainsi, le contexte mondial est venu réinstaller l'arme nucléaire au centre du jeu international. Plus que jamais, le risque de prolifération se pose au risque de désagréger l'ordre nucléaire contemporain. Avec la conflictualisation accrue des relations internationales, l'arme nucléaire se trouve revalorisée dans les États qui la possèdent déjà, avec la modernisation des arsenaux et le développement d'une rhétorique maniant la menace nucléaire. Revalorisation qui pourrait aussi se traduire par la décision de certains États de se doter de l'arme nucléaire. La dissuasion est-elle un facteur modérateur dans les relations internationales? Quel rôle joue exactement l'arme atomique dans un paysage où les formes de guerre se sont diversifiées? La prolifération nucléaire, l'un des grands enjeux de sécurité de notre temps. Pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales et son numéro intitulé « Armes nucléaires, le retour de la menace », nos invités, Héloïse Fayère, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, le spécialiste des questions nucléaires. Bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Olivier Zajec, professeur de sciences politiques à l'Université Jean Moulin, Lyon 3, où il dirige l'Institut d'études de stratégie et de défense, bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin, merci de votre invitation.
Mais merci à vous pour le temps que vous nous donnez. Alors, on va démarrer par une question un petit peu générale, mais qui va poser des pistes pour un développement plus précis. Quel état des lieux peut-on faire de l'ordre nucléaire mondial aujourd'hui? En quoi cet ordre connaît une crise inédite? Et quels sont finalement les principaux points d'inquiétude, Olivier Zajec?
Je crois que de ce point de vue-là, il faut peut-être faire la part des continuités et des ruptures. Il existe toujours un ordre international, tout d'abord du point de vue nucléaire. Il y a des États dotés au titre du traité de non-prolifération, que sont le fameux P5, hein, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie, qui détiennent l'essentiel hein, de l'arsenal mondial. Puis des puissances qui ne font pas partie du traité de non-prolifération, on les connaît, l'Inde, le Pakistan, Israël et puis la Corée du Nord. Donc il existe un ordre, il tient encore, il est hérité, il vient du passé, de la guerre froide et puis aussi de l'après-guerre froide avec un certain nombre de ruptures comme l'accession à l'arme nucléaire par exemple du Pakistan. Donc les éléments de continuité sont là, cet ordre est respecté, il tient, il y a eu très peu finalement de pays qui ont accédé à l'arme nucléaire depuis le début des années 90 et on reste sur finalement un confinement de cette capacité nucléaire. Et en même temps, on est en train de passer à un autre âge du nucléaire. Généralement, on considère qu'il y a 3 âges du nucléaire et c'est vraiment une caractéristique qui permet de mieux penser ce qui est en train d'arriver. Le premier âge, c'est celui de la guerre froide, un âge où finalement, dans le cadre d'une stabilité bipolaire, l'ordre nucléaire international était ordonné à un antagonisme fort entre les États-Unis et l'URSS. C'est un ordre qui a permis également aux deux grands de dialoguer, de mettre en place un certain nombre de cadres de contrôle et de maîtrise des armements. On pense au traité antimissile de 1972 et aussi à toute la série des traités STAR et SALT entre Washington et Moscou. Après la fin de la guerre froide, il y a eu un deuxième âge nucléaire qui a été celui de la lutte contre la prolifération et puis d'un espoir peut-être qu'on réussirait à diminuer, et ça a été le cas de manière massive, le nombre d'armes nucléaires dans le monde avec en particulier des États-Unis et la Russie, qui ont donné l'exemple et qui ont continué à dialoguer pour baisser quantitativement leur arsenal. La rupture, on est en train de la vivre en ce moment. On rentre dans un troisième âge nucléaire, en tout cas la plupart des experts le disent et sont assez d'accord, un âge où il y a une reprise à la fois de la prolifération verticale, c'est-à-dire que les États dotés de l'arme nucléaire améliorent non seulement qualitativement, mais sont tentés d'augmenter quantitativement leur arsenal, parce qu'ils considèrent que les relations internationales sont devenues instables, que les menaces augmentent. Et deuxièmement, il y a une prolifération ou un risque de prolifération horizontale, c'est-à-dire une augmentation du nombre des États qui pourraient eh bien, se doter de l'arme nucléaire. Donc on est aujourd'hui finalement un carrefour, un seuil, et on rentre dans un paysage et on vit une situation qui est à la fois stable, avec des éléments hérités du passé, un ordre qui continue à perdurer, et en même temps où les éléments d'instabilité potentielle augmentent, et ça nécessite une meilleure connaissance du nucléaire, ça nécessite de se repencher sur l'histoire de la Première Guerre froide pour en tirer des leçons, et ça nécessite aussi eh bien, d'avoir des spécialistes du nucléaire chez les analystes, d'avoir des politiques qui comprennent ce qu'est le nucléaire, ce qu'est le risque nucléaire au plus haut niveau, et c'est devenu assez urgent.
C'est tout l'enjeu finalement de ce numéro de questions internationales, Serge Sûr, intitulé Armes nucléaires, le retour de la menace, et communiquer sur ces questions nucléaires qui sont finalement assez méconnues.
Alors j'ai beaucoup d'estime et de respect pour Olivier Zazek, mais je dois dire que je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait trois âges du nucléaire, je pense qu'il y en a deux. Alors ça, je raisonne peut-être en tant que juriste, mais il y a d'abord l'époque de l'arms control.
Contrôle des armements.
La maîtrise des armements, pas le contrôle, la maîtrise des armements, qui reposait sur des accords fondamentalement entre les États-Unis et l'URSS. Donc là, ce n'était pas de confrontation qu'il s'agissait, mais au contraire d'accord, qui a culminé en 1973 avec un accord du 22 juin 1973 où les deux États se déclaraient d'accord pour se concerter en cas de menace d'emploi d'armes nucléaires par eux-mêmes ou par d'autres. C'est ce que, à l'époque, Michel Jobert appelait le condominium nucléaire américano-soviétique. Donc, ce n'était pas tellement une opposition, c'était un condominium. Et puis, après la chute du mur de Berlin et avec une accélération après 2001, on a assisté à un nouvel âge nucléaire qui était celui de la déconstruction de cet ordre nucléaire. C'est-à-dire que la plupart des instruments bilatéraux entre les États-Unis et l'URSS, devenue la Russie, ont été dénoncés par les uns ou par les autres. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus l'encadrement juridique qui existait entre les États-Unis et l'URSS et qui reposait sur l'équilibre des forces. Et nous sommes dans un univers qui est beaucoup plus compliqué, où il y a d'abord une remise en cause de la dissuasion, parce qu'il ne faut pas assimiler armes nucléaires et dissuasion. La dissuasion, c'est une stratégie qui est liée à l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire existe sans la dissuasion. Et un certain nombre de pays qui possèdent l'arme nucléaire ne croient pas nécessairement à la dissuasion. Et ils sont prêts à l'employer comme une arme classique. Parce qu'il y a une tendance à la miniaturisation de ces armes qui permet de les utiliser comme armes de combat. Et c'est notamment le cas de la Russie. Alors peut-être bien est-ce qu'il s'agit de déclarations, de propagande, mais on a complètement changé de paysage. Et de sorte que moi je ne dirais pas qu'il y a un ordre nucléaire, je dirais qu'il y a aujourd'hui un désordre nucléaire. Et que ce désordre, c'est précisément l'inquiétude que l'on peut avoir. Et ce désordre, il commence par la rupture possible entre armes nucléaires et dissuasion.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Louise Fayet, la question de la dissuasion, vous travaillez dessus beaucoup. Alors d'après vous, deux ou trois âges nucléaires, est-ce vraiment important d'ailleurs? Je ne sais pas. Et puis, remise en cause de la dissuasion?
Alors, moi, d'un point de vue de politiste, je vais me ranger à celui d'Olivier Zazek et à celui de la communauté des chercheurs internationaux qui considèrent effectivement que nous sommes dans un troisième âge nucléaire. Il y a des projets universitaires en cours aux États-Unis, au Royaume-Uni et des ouvrages qui sont publiés qui parlent effectivement d'un troisième âge nucléaire en y ajoutant aussi une dimension technologique. dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais par exemple la création de nouveaux types de missiles plus manœuvrants et plus rapides, les lancements aussi, enfin de nouveaux programmes d'armement et la modernisation des armements nucléaires des 9 États dotés et possesseurs, ajoute en fait à cette idée d'un troisième âge nucléaire, avec effectivement un premier âge pendant la guerre froide, un deuxième âge pendant cette période entre la fin de la guerre froide et 2014, l'invasion de la Crimée par la Russie et la montée en puissance de la Chine, et donc cette troisième âge qui débute au milieu des années 2010. Mais effectivement, c'est pas forcément le point sur lequel on peut débattre aujourd'hui, mais il est quand même important d'avoir en tête que les armes nucléaires, c'est certain, vous l'avez dit dans votre introduction, et c'est le titre de cette revue à laquelle j'ai contribué. Les armes nucléaires sont de retour. Elles accompagnent un mouvement beaucoup plus large d'un usage, on va dire, moins contrôlé de la force par les puissances internationales. Une compétition stratégique accrue où les armes nucléaires, en fait, ont le rôle qu'elles avaient pendant la guerre froide, voire un rôle encore un peu plus important, étant donné que maintenant, on voit une désinhibition autour de la menace nucléaire. Alors, pas forcément autour de son emploi comme arme nucléaire tactique. Ça, pour le coup, pendant la guerre froide, il y avait des plans beaucoup plus élaborés d'emploi sur le champ de bataille d'armes nucléaires que maintenant. La Russie et les États-Unis ont démantelé une part très importante de leurs armes nucléaires tactiques. Donc je considère qu'aujourd'hui, non, on ne va pas justement vers cet emploi. On peut même se rappeler que la France avait des armes nucléaires, alors tactiques, pré-stratégiques, mais en tout cas qui avaient une composante terrestre avec laquelle on était capable de frapper l'Allemagne de l'Est pour empêcher une invasion soviétique. Mais à mon sens, aujourd'hui, on est encore dans une perspective en fait de dissuasion nucléaire grâce aux armes nucléaires. Mais il est certain que oui, certains pays, mais je pense plutôt moi à la Corée du Nord, évoluent potentiellement vers un usage, disons, plus assumé de l'arme nucléaire comme arme d'emploi, donc potentiellement sur le champ de bataille. Et c'est aussi le cas des États-Unis et de la Russie. Mais c'est, à mon sens, pas quelque chose de nouveau. On voyait déjà ça pendant la guerre froide.
Alors, la Corée du Nord, Héloïse Fayet vient d'en parler, elle a joué sur le fait accompli par rapport à tout cela. Moi, j'ai cette question pour vous, Olivier Zajac, et pour tout le monde autour de ce débat. Serge Sure parlait du condominium soviéto-américain. Qu'est-ce que la Chine vient bousculer aujourd'hui dans ce paysage? Et quelles questions se posent par rapport à Pékin dans ce domaine du nucléaire, Olivier Zajac?
Alors ici, c'est une question complexe. On peut l'envisager sous plusieurs angles. Le premier, c'est peut-être celui de la perspective de février 2026, donc l'année prochaine, où, on le sait, la question qui se pose, c'est celle de la prolongation, si vous voulez, de New START. C'est-à-dire le dernier, aujourd'hui, traité de contrôle, de maîtrise des armements. Donc il est issu de cette période de l'arms control auquel faisait très justement référence Serge Sure tout à l'heure, de contrôle de maîtrise des armements entre les États-Unis et la Russie. L'une des questions aujourd'hui, du côté américain en particulier, et Donald Trump y a fait référence, mais ça ne date pas de la nouvelle administration, c'est une question qui existe depuis plusieurs années, c'est d'inclure la Chine dans cette discussion, éventuellement. Pourquoi? Parce que on voit effectivement une montée en puissance quantitative de l'arsenal chinois, qui vraiment a augmenté ces dernières années. Auparavant, il restait à un niveau qui était comparable à celui quantitativement de la France ou du Royaume-Uni. Et qui n'était en aucun cas comparable, au niveau de la Russie et des États-Unis. Or, la Chine progresse quantitativement, elle progresse également qualitativement, c'est-à-dire du point de vue de sa posture, de la protection de ses capacités de seconde frappe, en particulier, avec une plus grande protection et une création de nouveaux silos pour ses missiles balistiques intercontinentaux. Donc la Chine s'affirme qualitativement, quantitativement sur le plan nucléaire, et on va peut-être passer de ce qui pouvait correspondre, si vous voulez, à un P2+3, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie d'un côté, avec l'héritage de la guerre froide sur le plan quantitatif nucléaire, et de l'autre côté, trois autres puissances reconnues, mais avec des arsenaux moins importants quantitativement. Et là, on voit l'horizon éventuel d'un P3+2, si on peut dire, c'est-à-dire une éventuelle, alors certains chercheurs parlent d'une tripolarité nucléaire future entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Alors je ne suis pas sûr que la Chine ait vraiment intérêt à monter, comme le disent certains analystes, jusqu'à 1500 têtes pour être au niveau des États-Unis et de la Russie, mais tout de même, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Donc on aura un P3+2, Chine, États-Unis, Russie, et de l'autre côté, les deux puissances européennes actuelles. Et ça change beaucoup de choses, éventuellement. Ça change d'abord le poids et la crédibilité internationale de la Chine dans un certain nombre de domaines. Ça fait très peur aux voisins de la Chine. Le Japon réagit beaucoup. Hein. Le débat nucléaire au Japon, mais aussi en Corée du Sud, est aujourd'hui très vif. Et il ne concerne pas simplement le danger nord-coréen, mais il concerne également le rôle, non pas le statut, mais le poids relatif que peut avoir la Chine dans ce domaine-là. Donc, la Chine, aujourd'hui, est un élément qui est une variable, scrutée, très intéressante d'ailleurs à étudier, et elle modifie un ordre nucléaire qui perdurait, hein, il y avait des aspects de continuité, mais qu'elle va modifier.
Alors, la Chine intéressante à étudier, mais tout de même difficile à étudier, je parle sous votre contrôle, on lui reproche un manque de transparence, bon, absence de mécanisme de maîtrise des armements, et la Chine qui ne fournit pas de données sur ses arsenaux et se montre, Héloïse Fayet, plutôt rétive à toute communication ou tout échange sur le sujet.
Oui, et c'est ça qui, à mon sens, distingue vraiment la relation qu'ont les États-Unis et la Russie, donc qui ont été décrites par les deux autres intervenants, donc une relation qui a quand même maintenant plus de 60 ans, qui est construite, alors pas sur une confiance mutuelle, hein, évidemment, mais au moins doit avoir des mécanismes de transparence, de contrôle. Il y a encore aujourd'hui des accords qui datent de la guerre froide, donc au-delà de New Start, vous avez aussi un mécanisme en fait quand ils font des essais avec leurs missiles balistiques, donc sans tête nucléaire, évidemment, la Russie prévient les États-Unis et les États-Unis préviennent la Russie. Tout ça pour éviter en fait une escalade incontrôlée et des incompréhensions telles qu'on a pu les connaître. Bah, l'exemple principal, c'est évidemment la crise du Cuba. Donc tout ça existe entre les États-Unis et la Russie. Alors, c'est évidemment remis en cause depuis le début de la guerre en Ukraine, mais rien de cela n'existe avec la Chine. Et effectivement, la Chine considère que tout accord de maîtrise des armements, toute tentative de limitation de son arsenal, ils le comprennent non pas comme un mécanisme de stabilité stratégique, donc qui bénéficierait en fait au plus grand nombre, mais comme une tentative de la part des États-Unis de freiner le développement de leur arsenal nucléaire, un arsenal nucléaire auquel les Chinois considèrent qu'ils ont droit, étant donné qu'ils sont désormais une grande puissance sur le plan économique et sur le plan stratégique. Donc c'est en partie pour cela que c'est très compliqué de les amener à la table des négociations. Et paradoxalement, la Chine, même s'ils sont très peu transparents et qu'ils ne font pas partie de ces accords, se considère comme une puissance nucléaire responsable parce qu'ils ont une doctrine spécifique de non-emploi en premier. Ils stockent d'une façon séparée les têtes de leurs missiles balistiques. Et donc tout ça, en fait, se présente notamment auprès des pays qui ne sont pas nucléaires comme une puissance nucléaire responsable, à l'inverse des États-Unis et de la Russie. Et c'est vraiment, en fait, cette montée en puissance de la Chine inquiète énormément les États-Unis, qui, depuis 3-4 ans, ont ce nouveau concept de dissuasion des deux pairs, donc PR comme PAIRS, d'une compétition des deux pairs. Et là, avec la nouvelle administration Trump, il y a énormément de think tanks républicains et de futurs, en fait, officiels américains qui considèrent par exemple que pour réussir à dissuader à la fois la Russie et la Chine, il faut par exemple augmenter le nombre de têtes nucléaires aux États-Unis, créer de nouveaux armements, revenir à des doctrines et des concepts d'emploi qui datent de la guerre froide. Et tout cela évidemment ne présage rien de bon pour la stabilité stratégique mondiale.
Donc conséquence, j'ai pas le temps de poser la question, mais pas le temps d'une réponse. Je vous donnerai la parole dans la deuxième partie de l'émission, Serge Sûr. Donc en tout cas, cette montée en puissance de la Chine, on l'a compris, a des conséquences pour la doctrine états-unienne. Et j'avais cette question aussi que je reposerais, c'est de savoir si finalement le partenariat sans limite entre la Russie et la Chine, eh bien, est-ce qu'il inclut ou pas ces questions nucléaires. On vous retrouve, Serge Sûr, avec Héloïse Fayet et Olivier Zajec après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales et son numéro consacré aux armes nucléaires avec le titre du retour de la menace. Nous retrouvons nos invités Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste des questions nucléaires. Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Et Olivier Zajec, professeur de sciences politiques à l'Université Jean Moulin Lyon 3, où il dirige l'Institut d'études de stratégie et de défense. On a terminé la première partie de l'émission sur la montée en puissance de la Chine en matière nucléaire et Héloïse Fayet nous a dit quelques mots sur les conséquences de cette montée en puissance sur la doctrine états-unienne. Et j'avais cette question, le partenariat entre la Chine et la Russie, est-ce qu'on peut imaginer, Serge Sûr, qu'il inclut également les questions nucléaires ?
Écoutez, je crois que chaque puissance nucléaire agit pour son compte, pour ses intérêts, dans la mesure où l'arme nucléaire est considérée comme défendant des intérêts supérieurs, des intérêts suprêmes de l'État. Donc tout partenariat, il est fragile et révocable en fonction des intérêts de l'État. Et je ne crois pas que entre la Russie et la Chine, il y ait véritablement une solidarité d'intérêts stratégiques sur le plan nucléaire. Mais dans la mesure où je dis que chaque État agit pour son compte, les États-Unis se considèrent au fond comme responsables de ce qui pourrait être un ordre nucléaire, parce qu'ils ont été la première puissance nucléaire, et à la limite, ils considèrent que toutes les proliférations ultérieures sont illégitimes. Ils considèrent qu'ils, eux seuls, devraient rester puissance nucléaire, ce qui leur donnerait la possibilité de renoncer. Mais ils ne peuvent évidemment pas renoncer tant qu'il y a d'autres puissances nucléaires. Rappelons-nous le discours de Reagan sur l'IDS. Il disait qu'il faut rendre ces armes impuissantes et obsolètes.
C'était pour ça, la guerre des étoiles de Reagan.
Oui, ce qu'on appelait la guerre des étoiles. Mais pour cela, il faut que nous ayons une défense qui soit imparable, qui soit incontournable. À partir du moment où nous aurons une défense incontournable, eh bien, l'arme nucléaire sera inutile. Elle sera inutile pour tout le monde. Et donc, les autres commenceront et puis nous terminerons. On pouvait considérer que c'était un petit peu de la fantaisie, mais je crois qu'il y avait chez le président Reagan une conviction sincère en la matière. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a un certain retour de cela, puisque le président Trump vient d'annoncer l'idée d'établir un bouclier infranchissable au profit des États-Unis. Donc, d'une certaine façon, c'est la résurgence de ce qu'était l'IDS. Alors, je ne crois pas que ce soit réalisable.
Un dôme de fer à l'image de ce qu'a fait Israël pour se protéger.
Oui, mais le dôme de fer, il n'est pas fait pour se protéger des armes nucléaires. Il est fait pour se protéger des missiles classiques et puis des drones. Enfin, ça n'est pas la même logique. Ça demanderait des investissements considérables. Et lorsqu'on voit qu'il se consacre plutôt à l'intelligence artificielle, je crois qu'il y a une incompatibilité et que l'IDS, c'est les combats du passé, alors que l'intelligence artificielle, c'est les combats du futur. De ce point de vue, à mon avis, l'administration de Trump se dirigera plutôt vers l'intelligence artificielle que vers le retour d'une compétition nucléaire.
L'avenir nous le dira. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Serge Sûr. Après ça, j'ai d'autres questions, puisqu'on parle des États-Unis. C'est parler aussi de l'Iran, puisque Donald Trump a dit qu'il ne laisserait pas l'Iran devenir nucléaire. Olivier Zajec, quelles questions pose l'Iran aujourd'hui ? On évoque des négociations qui pourraient ressortir de terre. Les États-Unis s'étaient retirés de l'accord du JCPOA en 2018. Est-ce qu'il y a une fenêtre et une nouvelle opportunité de résoudre la question nucléaire iranienne, Olivier Zajec ?
Alors, c'est un sujet central. Il est très difficile de prévoir, de lire, de décrypter quelles sont les intentions, en tout cas sur le plan tactique de Donald Trump. Ce que l'on sait, c'est qu'il est le tenant d'une ligne extrêmement dure, voire fermée vis-à-vis du régime iranien, et que l'accession éventuelle de l'Iran à l'arme nucléaire est une ligne rouge absolue du côté de Donald Trump et plus généralement de l'administration américaine. Parce que les enjeux sont énormes. Alors je ne crois pas personnellement, mais c'est un débat, que le JCPOA puisse être relancé, tout simplement parce que les demandes vis-à-vis de l'Iran, les pressions devraient être énormes et l'Iran ne serait sans doute pas prêt à les accepter. Bien sûr, on peut être surpris, il peut y avoir une ouverture, un coup de poker du côté Trump, mais je pense que c'est hautement improbable. On aura une pression maximum et pas vraiment d'ouverture de négociations, ou alors elles seront léonines. Mais pourquoi ? Parce que l'enjeu est gigantesque. Si l'Iran quitte le traité de non-prolifération, ce qui est une éventuelle hypothèse, si l'Iran accède à l'arme nucléaire, il peut y avoir une réaction en chaîne. C'est une sorte de théorie des dominos nucléaires. L'Arabie Saoudite pourrait, dans ce cas-là, effectivement, déclarer qu'elle fait de l'accession à l'arme nucléaire un objectif. La Turquie est citée comme un État qui pourrait également considérer comme stratégique et opportun dans un cadre bouleversé, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde, du point de vue de l'ordre nucléaire, et bien effectivement d'accéder à l'arme. Vous avez d'autres candidats, la Corée du Sud, par exemple. Bref, il pourrait y avoir une réaction en chaîne. Alors, les débats sur cette question sont assez complexes, les analyses sont partagées, mais ce qui est sûr, c'est que la sortie d'un pays aujourd'hui du TNP et ou l'accession d'un pays à l'arme nucléaire, oui, validerait ce troisième âge nucléaire et montrerait qu'on est, je parle de désordre nucléaire, oui, eh bien là, on rentrerait vraiment dans une logique, si vous voulez, de prolifération horizontale qui serait un difficile d'arrêter. Donc l'Iran est un des enjeux centraux et aujourd'hui tout le monde scrute ce dossier. Je ne crois pas à la relance du JCPOA, je crois plutôt à un scénario de pression maximale sur l'Iran pour qu'elle ne cède pas à cette tentation.
TNP pour le traité de non-prolifération. Alors, Louise Fayet, si vous souhaitez rajouter quelque chose, après ça, j'ai cette question pour faire avancer un petit peu le débat aussi. On a vu l'Iran transférer des armes à la Russie pour l'aider en Ukraine, notamment des drones, des usines clés en main pour permettre aux Russes d'en fabriquer eux-mêmes et des missiles. Certains redoutent que le Kremlin ait fourni en échange une aide décisive sur le nucléaire et l'expertise balistique à Téhéran. Comment analyser le facteur nucléaire dans la conduite de la guerre d'Ukraine?
Justement, votre question va permettre de compléter un petit peu le point de vue sur le nucléaire iranien et surtout l'urgence d'agir. Parce qu'aujourd'hui, les dispositions qui ont été prises dans le JCPOA et qui sont encore valides au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc qui nous permettent en fait de surveiller tant bien que mal le programme nucléaire iranien et donc d'être certain que pour le moment l'Iran ne dispose pas d'une arme nucléaire et ne cherche pas activement à en obtenir une, elles expirent en octobre 2025. Donc il reste en fait moins d'un an aux États-Unis très clairement pour s'entendre avec l'Iran, alors pas sur un JCPOA bis, mais en tout cas effectivement pour au moins trouver un accord de principe, même peut-être quelque chose d'assez officieux avec la modération par exemple des pays du Golfe pour freiner l'enrichissement de l'uranium iranien. Et en fait, l'un des facteurs bloquants justement de ces négociations, c'est le rapprochement entre la Russie et l'Iran à la faveur de la guerre en Ukraine, où comme vous l'avez dit, l'Iran a fourni des armes à la Russie. Alors, des armes quand même de pas de très bonne qualité, mais qui permettent en tout cas à la Russie d'avoir un petit peu de stock. Tout ce qui est les drones et les quelques missiles fournis par l'Iran sont facilement interceptés, mais ça permet de faire de la masse et de saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes. Donc en échange, la Russie a fourni une aide spatiale à l'Iran, une évasion pour les sanctions. Comme le disait Serge Sûr, les technologies nucléaires sont vraiment le cœur de la souveraineté d'un pays et il est à mon sens assez peu probable que la Russie ait fourni une aide directe à l'Iran sur le plan du nucléaire militaire, tout simplement parce qu'encore aujourd'hui, la Russie n'a pas intérêt à une prolifération iranienne. Il est beaucoup plus facile de contrôler un allié ou un partenaire s'il n'a pas d'armes nucléaires, parce que du coup, il est limité dans l'autonomie qu'il peut avoir en termes de politique étrangère et de politique de défense. Donc à mon sens, non, la Russie n'a pas fourni d'aide sur le plan nucléaire à l'Iran, mais ça fait partie effectivement de cette plus grande question sur la dimension nucléaire de la guerre en Ukraine, qui en fait est celle par laquelle le nucléaire est revenu sur le devant de la scène, en tout cas en Occident. Je pense qu'on avait quand même un peu oublié qu'on avait des armes nucléaires, que la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de publications sur le nucléaire militaire depuis février 2022. Et c'est tant mieux. Mais il est certain qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine se déroule sous une ombre nucléaire où, en fait, vous avez d'un côté l'OTAN et de l'autre côté la Russie qui se dissuadent mutuellement d'aller trop loin en Ukraine. À mon sens, si la guerre en Ukraine n'a pas débordé physiquement, soit dans les pays de l'OTAN, soit sur le territoire russe, bon, le cas de Koursk étant à part, c'est notamment grâce à la dissuasion nucléaire qui tient encore entre ces deux blocs, mais qui pose évidemment des tas de questions. Comment protéger un pays qui ne dispose pas de l'arme nucléaire et qui ne fait pas partie justement de l'OTAN ou de l'Union européenne face à une agression conduite par un État nucléaire? Donc, comment donner des garanties de sécurité crédibles à l'Ukraine alors qu'elle est attaquée par la Russie? Et de l'autre aussi, les incursions terrestres que l'on a vues menées par l'armée ukrainienne sur le territoire russe et les multiples attaques ukrainiennes dans la profondeur du territoire russe, notamment à l'aide de drones et de missiles. Qu'est-ce que ça dit justement de la dissuasion nucléaire russe ? Et plus largement, qu'est-ce que la rhétorique nucléaire russe très active depuis le début du conflit, avec régulièrement des discours de Vladimir Poutine, des infographies à la télévision sur les missiles russes qui seraient capables d'atteindre Paris en 6 minutes, ce qui est faux. Voilà, nous disent en fait de cette réactualisation de la dissuasion et surtout en face, comment les pays occidentaux et surtout la France, dont on a peu parlé en fait depuis le début de l'émission, doit réagir. Le président Macron, en février 2020, avait évoqué une dimension européenne aux intérêts vitaux français, appelant justement les pays européens à s'intéresser à la dissuasion nucléaire française pour essayer de construire une culture stratégique commune. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que la France est prête à faire pour protéger les pays européens et donner des garanties de sécurité supplémentaires, surtout dans une perspective où Donald Trump ne sera peut-être pas toujours là pour venir au secours des pays européens et de l'OTAN.
Est-ce que le parapluie nucléaire français peut valoir pour les pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne ayant quitté l'Union européenne ? Alors, il y a un pays dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la Corée du Nord. Dans la question de la guerre d'Ukraine, est-ce que ça rajoute un élément dans le nucléaire ? Après ça, je vous passe la parole, Serge Sûr, et Loïse Fayet, très rapidement.
Non, je ne pense pas. Le soutien qui a été fourni à la Russie par la Corée du Nord est quand même essentiellement conventionnel. Mais effectivement, ça renforce cette idée. Alors, c'est très américain et c'est très critiqué d'une sorte de groupe maintenant de pays, donc Iran, Russie, Chine, Corée du Nord, donc trois pays nucléaires, un pays tenté par l'arme nucléaire qui partagerait des valeurs. Mmh. Mais c'est faux de les voir dans une sorte de nouveau bloc en face de l'OTAN parce qu'ils sont quand même, leurs relations en interne sont quand même extrêmement asymétriques. Mais oui, il y a quand même une dimension nucléaire dans cet alignement.
Serge Sûr.
Écoutez, moi, sur ce qu'on vient de dire, j'aurai trois observations. L'une qui concerne l'Ukraine, l'autre la Corée du Nord et la troisième l'Iran. Pour ce qui est de l'Ukraine, on peut dire que l'arme nucléaire est en surplomb. Elle n'est pas au centre, mais elle est en surplomb. Au fond, ça pourrait être une illustration de la doctrine de la sanctuarisation agressive. C'est-à-dire qu'à l'abri de l'arme nucléaire, qui le protège contre des représailles trop fortes, un pays peut agresser un État ou un pays non nucléaire, non doté d'armes nucléaires. Et c'est bien ce qui se passe, parce que les pays occidentaux sont freinés dans leur soutien à l'Ukraine par la menace d'armes nucléaires. Et aussi bien les États-Unis que les pays européens limitent leur aide pour ne pas aller au-delà d'un certain seuil qui serait le seuil nucléaire.
C'est donc que la menace marche.
C'est donc que la menace marche dans une certaine mesure. La deuxième observation, c'est sur la Corée du Nord. Là, je pense qu'il y a tout de même un partenariat nucléaire qui est en train de s'établir entre la Russie et la Corée du Nord et que la Russie va aider ou commence à aider la Corée du Nord à développer ses capacités nucléaires. Ce qui, d'ailleurs, est de nature à inquiéter la Chine. Mmh. Et là, ça complète ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas de solidarité nucléaire entre la Chine et la Russie. Et puis, la troisième observation, c'est à propos de l'Iran. L'Iran, c'est un exemple tout à fait particulier qui montre qu'il y a un découplage entre la dissuasion et l'arme nucléaire. Israël dispose de l'arme nucléaire. Ça ne lui donne aucune sécurité particulière, parce qu'il n'y a pas de menace nucléaire qui pèse sur Israël, et les menaces sont des menaces classiques, sont des menaces qui sont liées au terrorisme. L'arme nucléaire ne protège absolument pas Israël contre le terrorisme. Donc l'arme nucléaire, là, ne joue pas un rôle dissuasif. En revanche, l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, mais d'une certaine façon, l'Iran a déjà la dissuasion. Parce que si on n'attaque pas l'Iran, c'est parce qu'on craint que ça l'oblige à devenir très vite nucléaire, ou qu'il ait déjà l'arme nucléaire. Et donc, d'une certaine façon, l'Iran a atteint son but, qui est d'exercer la dissuasion sans l'arme. Et l'Iran n'a pas vraiment besoin de l'arme.
Donc, ce ne serait pas la peine.
Elle a besoin d'être un état du seuil.
De franchir.
Voilà, d'avoir la capacité de franchir. Je me souviens qu'en 2004, donc il y a plus de 20 ans, un Américain m'avait expliqué qu'il y allait y avoir avec l'Iran une crise qui serait la même que la crise de Cuba. En 2004, il ne s'est rien passé, 20 ans après. Mais l'Iran a toujours cette capacité nucléaire, ou en tout cas cette capacité de devenir très rapidement nucléaire, qui lui assure déjà une certaine forme de dissuasion. Donc vous voyez, il y a bien un découplage entre dissuasion et armes nucléaires.
Oui, Héloïse Fayet, vous partagez ?
Oui, bien sûr, mais c'est juste, en fait, c'est une pensée très française que de considérer que la dissuasion est strictement nucléaire. Je veux dire, les Américains parlent de dissuasion intégrée, les Russes de dissuasion stratégique, et dans la pensée des autres États nucléaires, les forces conventionnelles contribuent également à une posture beaucoup plus globale de la dissuasion, et je suis tout à fait d'accord avec la vision qui est faite de l'Iran, où l'arsenal balistique et l'arsenal milicien de l'Iran était censé justement exercer une dissuasion conventionnelle du coup sur l'Iran. Ça a peut-être été un peu remis en cause par les frappes israéliennes sur le territoire iranien. Et c'est pour ça aussi qu'on voit en fait quand même une rhétorique nucléaire un petit peu plus poussée de la part de l'Iran, mais qui pour l'instant ne se traduit pas en actes concrets d'acquisition de technologies nucléaires.
Alors on a évoqué beaucoup de choses et dont la question du contrôle, je sais que c'était pas le bon terme, la maîtrise des désarmements. De tout ce qui a été dit, évidemment j'avais encore plein de questions, mais si pour résumer et rassembler un tout petit peu les choses, la question du fort dynamisme de la Chine en matière nucléaire, quelque chose qui pose question, on a évoqué le manque de transparence, etc. Comment faire finalement pour engager la Chine dans d'éventuelles, alors je sais pas comment appeler ça, des négociations peut-être? Quel rôle pour l'Europe dans tout cela? C'est vrai qu'on a peu parlé ni de la Grande-Bretagne, ni de la France.
Et de l'Inde. Ni de l'Inde et du Pakistan.
Ah oui.
Qui compte aussi.
En deux minutes. Alors, Olivier Zajac, quelques mots.
Oui, alors, je crois que la France peut avoir un rôle très important. La France se distingue du reste du P5 par une vision, je pense, équilibrée des droits et des devoirs qu'a un État doté dans le cadre du traité de non-prolifération. C'est-à-dire que la France est très sérieuse, me semble-t-il, et assez exemplaire du point de vue de l'article 6 de ce traité qui équilibre justement et rappelle que posséder l'arme nucléaire, se voir reconnu ce statut et cette possession, dans le cadre quand même du traité, un des traités les plus rassembleurs aujourd'hui du monde, ça entraîne aussi des devoirs. Les devoirs, c'est de ne pas emprunter le chemin de la prolifération verticale, c'est être exemplaire dans le cadre de la lutte contre la prolifération, c'est faire en sorte que les négociations, les discussions entre États dotés et États non dotés, dans la perspective peut-être un jour d'une abolition de l'arme nucléaire, soient tenues et soient denses. Et la France rappelle l'importance du TNP. Je crois que de ce point de vue-là, par rapport aux autres États dotés, par rapport à la nouvelle question que pose le statut et les intentions chinoises, eh bien, avoir un rôle pivot, on aime bien se critiquer en France, l'expression de puissance d'équilibre a été moquée ou a été critiquée. Moi, je suis navré, mais je crois que cette expression a un sens, elle a une valeur, que la France peut effectivement avoir une position interstitielle, une position qui puisse donner effectivement un rôle, une influence dans ce débat général. Je rappelle que l'année prochaine, la question de la signature de New Start se posera, mais qu'au même moment, on aura une reprise du cycle de discussion autour justement du traité de non-prolifération. Les Chinois l'ont bien vu, puisqu'ils proposent pour l'année prochaine une discussion générale autour d'un projet de traité qui sera un projet de traité qu'ils proposent très officiellement aux autres États, dotés en particulier, d'un traité autour du non-emploi en premier. Chaque État déclarerait qu'il n'utilisera jamais l'arme nucléaire en premier. Alors, il y a des arrière-pensées chinoises, une manœuvre, il y a des attentes stratégiques de la part des Chinois, il y a très peu de chances qu'on arrivera à un traité de cette nature, mais enfin, il y a des discussions qui sont ouvertes, il y a des canaux, il y a des contre-propositions chinoises. Je crois qu'à partir de l'année prochaine en particulier, on va avoir un moment très dense de négociations, de discussions, d'échanges. Je crois que la France peut y jouer un rôle en raison de son rôle particulier, son choix particulier en matière doctrinale et en matière politique.
Merci Olivier Zajac. Oui, merci Olivier Zajac. Alors, Serge Sûr, mais.
Oui, deux points très rapides. Le premier, c'est qu'il y a l'interdiction des essais. Qui jusqu'à présent est respectée, sauf par la Corée du Nord. Et il faut bien dire que l'interdiction des essais, c'est à terme un moyen de tuer l'arme nucléaire. Parce que lorsqu'on n'aura pas essayé ces armes pendant 50 ans, qui pourra encore croire qu'elles servent à quelque chose? Et le non-emploi en premier, c'est aussi une manière de tuer les armes nucléaires. Parce que si vous ne pouvez pas les employer en premier, vous ne pouvez les envoyer qu'en deuxième. Ce qui veut dire que le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Donc on n'a pas besoin du nucléaire. Donc dans les deux cas, c'est une manière de tuer le nucléaire, ce qui fait que je ne crois absolument pas à la possibilité d'un traité sur le non-emploi en premier.
On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Merci à chacun. Olivier Zajac, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Jean Moulin, Lyon 3, où vous dirigez l'Institut d'études de stratégie et de défense. Merci aussi à Serge Sûr, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, rédacteur en chef de la revue Questions internationales et de son numéro Armes nucléaires, le retour de la menace, et Louise Fayet, chercheuse à l'IFRI, spécialiste des questions nucléaires. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.